Alors nous restons aujourd'hui dans la réflexion concernant cette partie de la du part de la bien mal, contribution à l'histoire naturelle de la morale. En réalité, c'est une approche de la pensée de Nietzsche concernant la morale elle-même. Et surtout, comme nous allons le voir dans les paragraphes 201 et 202 et les suivants, c'est une approche aussi de la fameuse distinction entre la morale aristocratique et la morale servile. Je reviens d'un mot sur la dernière séance. J'avais terminé, vous vous en souvenez, par deux références un peu polémiques, l'une qui ne l'était guère, sur Tocqueville, ne serait-ce que pour montrer que si la pensée de Nietzsche est en effet violente et certainement originale sur la démocratie moderne, elle n'est pas la seule dans cette ligne. Et on trouverait chez Tocqueville, avec les nuances et la courtoisie qu'il caractérise, des propositions et des inquiétudes assez analogues. On reviendra peut-être sur ce point et sur cette parenté, évidemment, tout à fait étrange. Mais alors, j'avais aussi donné deux références à Jean-François Lyotard d'un côté et à Jacques Derrida de l'autre, pour montrer à quel point les textes que nous lisons peuvent être tirés dans des sens divers, et en particulier, dans le cas de Derrida ou de Lyotard, pouvaient être tirés dans un sens du nihilisme, au fond, plus n'a de sens et n'importe quoi de sens, j'ai oublié mon parapluie, est un posthume aussi important que, disons, la mort de Dieu. Et de l'autre côté, dans le cas de Lyotard, pour tirer Nietzsche d'un côté, du côté d'un anarchisme, d'un ultra-gauchisme qui justifie, au fond, toute attitude des singularités. Alors, je crois quand même que si on regarde les textes de Nietzsche de près, si on prend soin de les lire, on s'aperçoit de choses tout à fait différentes. Et je rappelle donc un peu quelques-unes des conclusions auxquelles je suis parvenu, auxquelles nous sommes parvenus. Mais bien entendu, je voulais montrer aussi que, et j'y reviendrai en terminant ce cours, d'autres interprétations sont tout à fait possibles. Alors, ce que nous avions vu dans les paragraphes 262 en particulier, c'est plusieurs choses qui, je crois, sont tout à fait significatives de la perspective nietzschéenne. C'est d'abord que tout groupe humain, disons toute société, on pourrait dire toute culture, ne s'instaure que par un décrochage par rapport à la nature. Alors, ce thème de nature, comme nous le savons, est un port aux ânes dans la philosophie et dans la théologie. C'est une notion, on pourrait dire, insubmersible et tout à fait équivoque, puisque chaque philosophe la reprend, ne peut pas, d'une certaine façon, ne pas la reprendre, mais lui donne une signification spécifique. Donc, il faut se méfier de ne pas transposer de l'un à l'autre les conceptions que l'on peut avoir de cette notion. Alors, dans le cas de Nietzsche, nous voyons bien que, enfin, dans les textes que nous avons lus, c'est qu'une société s'instaure souvent dans des conditions qui ne sont pas nécessairement favorables, et que par conséquent, d'elle-même, la nature ne fournit pas les moyens de la subsistance humaine, en tout cas dans une société ordonnée. C'est ce que j'appelle, ce n'est pas un terme nietzschéen, mais un décrochage nécessaire par rapport à la nature, mais comme le vocabulaire nietzschéen est souvent flou ou flottant, on pourrait dire par rapport à la vie. Sans ce décrochage ou sans l'imposition d'une loi qui va instituer la société ou le groupe, il n'y a que mort, chaos, dévastation, et donc il n'y a pas de vie. C'est le néant qui l'emporte sur la vie. Alors, il me semble que cette proposition, nous avons vu à propos de Venise, qui me paraît en effet l'exemple tout à fait éclairant, nous permet de préciser quand même quelque chose sur le soi-disant vitalisme nietzschéen. N'est-ce pas, on l'accuse volontiers, c'est une réflexion courante, c'est un préjugé courant, de vitalisme. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on entend par vitalisme ? Si on entendait que la vie d'elle-même se déploie et que l'homme fait partie de ce déploiement de la vie sans plus, je crois que ça, c'est une erreur, puisque l'homme ne peut vivre qu'en se donnant des conditions de survie. Et ces conditions, c'est à lui de les poser, et de les poser toujours dans un contexte extrêmement précis, extrêmement déterminé, selon des conditions qui peuvent être plus ou moins favorables. Alors, cela veut dire que, bien sûr, il faut dire oui à la vie, ça c'est un des grands thèmes fondamentaux de Nietzsche, mais encore faut-il un dire oui, encore faut-il une mobilisation des volontés pour que ce dire oui permette d'échapper finalement au chaos. Et d'une certaine façon, ce dire oui et cette imposition d'une discipline ou d'une loi est une exigence de la nature elle-même. Je vais signaler la fin de ce paragraphe 188, en effet tout à fait significatif, je le relis. Nietzsche fait une citation, « Tu obéiras, peu importe à qui et pour longtemps, sinon, souligné, tu périras et tu perdras tout respect de toi-même. Voilà à mes yeux l'impératif moral de la nature. » L'impératif moral de la nature, et il commente ainsi, « Un impératif qui, à coup sûr, n'est pas catégorique, entre guillemets, comme le voulait le vieux Kant, d'où le « sinon, sinon tu périras », comme le voulait le vieux Kant, ni destiné aux individus, la nature ne se soucie pas des individus, mais à des peuples, à des races, à des âges, à des classes, et par-dessus tout à l'animal, homme, entre guillemets, tout entier, à l'homme, an den Menschen. Sur ce point, Nietzsche se trahit un peu lui-même, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus proche de Kant qu'il ne pense. Il y a vraiment un impératif catégorique qui s'impose aux catégories sociales, il parle ici de race, de classe, d'âge, de peuple, qui s'impose, sinon, c'est la mort. Donc c'est vraiment un impératif catégorique, c'est le choix entre la vie et la mort. C'est le choix entre la vie et la mort. C'est la nature, par conséquent, qui impose cet impératif catégorique, cet impératif moral. D'où, par conséquent, la société, une société, un groupe, ses peuples, Venise, une ville, doit se donner forme en se donnant une discipline, une exigence pour surmonter les conditions défavorables. Donc la vie n'est pas immédiatement viable, c'est en ce sens que je dis qu'il n'y a pas de vitalisme pur et simple, mais il y a une opposition. Si l'homme ne se donne pas cette loi, eh bien la nature ou la vie l'emportera dans le néant. Si Venise ne se mobilise pas pour dominer la mer, eh bien Venise sera engloutie purement et simplement. D'où la nécessité, si l'on veut en effet quelque chose comme Venise, mais il parle des cités grecques aussi sans donner de référence précise, si l'on veut survivre, alors il faut se donner des conditions de survie. Et donc, l'institution d'une société humaine suppose l'adoption, la mise en place d'une loi qui sera une loi sélective. Nietzsche prend l'exemple, je l'avais pris moi-même, d'une société de guerriers, une société qui est exposée à des hostilités par des tribus, par des groupes, par des nations étrangères. Elle doit évidemment se donner comme valeur suprême la défense de soi-même, et donc elle va se hiérarchiser autour des guerriers qui auront dans cette société-là une place infiniment plus importante que les commerçants ou les poètes, même si ceux-ci sont utiles. Donc cette société est obligée de sélectionner. C'est un vocabulaire évidemment dangereux pour nous aujourd'hui, mais je crois qu'il faut bien comprendre ce que Nietzsche veut dire. La sélection va de soi à partir du moment où l'on s'est donné une loi qui va structurer cette société. Une société de commerçants, évidemment, privilégiera à l'inverse le commerce et évidemment pas la guerre. Donc toute société se donne une sélection, elle est basée sur une sélection, et donc sur une hiérarchie. La pensée nietzschéenne est une pensée de la hiérarchie. Il y a toujours et partout, nous dit-il, une hiérarchie. Plus ou moins visible, plus ou moins cachée, mais il y a toujours et partout une hiérarchie, parce qu'une société se doit de se donner une loi de sélection qui lui permet de survivre. Alors, je disais le mot « sélection » est dangereux, parce qu'effectivement, on peut concevoir le mot « sélection » comme quelque chose d'arbitraire. Par exemple, il y a quelques années, le philosophe allemand Sloterdijk, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, c'est un espèce de fou, mais bon, qui a beaucoup de succès, avait sorti un Sloterdijk, je crois que ça s'écrit comme ça, S-L-O-T-R-D-I-G-K, qui avait fait une conférence à Munich, ça lui était bien trouvé, pour dire que dans l'avenir, il faudrait créer un parc humain sur la base d'une sélection. Et qu'on sélectionnerait, évidemment, les plus doués, les plus intelligents, etc. Mais je dirais, ça, c'est la sélection, peut-être, à la nazie. C'est pas la sélection nietzschéenne, c'est une sélection arbitraire. La sélection nietzschéenne s'impose comme un impératif. On ne peut pas faire autrement que deux. Donc, il ne s'agit pas d'un tyran qui déciderait de choisir selon le QI des individus et d'éliminer, je sais pas moi, les malades ou les handicapés ou les vieillards. Il s'agit d'une structuration interne de la société qui ne peut pas ne pas choisir une valeur dominante et par conséquent poser ainsi une hiérarchie. Bon, alors, on voit tout de suite, je l'avais signalé le jour et on va y revenir, une des conséquences de cette idée concernant l'analyse de la société moderne. Parce que, aux yeux de Nietzsche, cet impératif moral de la nature semble disparaître. L'obstacle semble disparaître. Nous sommes dans des sociétés, pourrait-on dire, de la facilité. C'est-à-dire des sociétés dans lesquelles le tout ne commande plus directement les parties. J'avais cité le texte très intéressant du cas Wagner, le cas Wagner sur la décadence, ce que Nietzsche appelle la décadence. Là encore, il le prend dans un sens très précis. La décadence, c'est quand le mot sort de la phrase de la page du livre. C'est-à-dire, c'est l'éclatement d'une totalité. Donc, on a affaire à une pensée, comme diraient les anthropologues, holiste, où le tout commande l'ensemble. Bon, dans une société moderne, et là encore, on retrouvait tout à fait Tocqueville, le tout n'organise plus l'ensemble. D'où anarchie des passions, liberté des individus. Et donc, cet individu qui était en quelque sorte cadré, ordonné au tout, soumis au tout, obéissant au tout, s'émancipe et devient, au fond, le principe lui-même. Et d'où le danger, puisque le danger devient interne à l'individu, puisqu'il ne reçoit plus de l'extérieur cette loi qui ordonne structure et hiérarchise, c'est à lui de se la donner. Alors, la question est de savoir s'il le peut, et surtout s'il le veut. Et nous allons trouver tout de suite la distinction que j'annonçais tout à l'heure entre la morale noble et la morale servile. Il y a ceux qui seront capables de se donner à eux-mêmes la loi, morale de noblesse, d'honneur, etc. On verra ça tout à l'heure, ou demain, ou la prochaine fois. Et ceux qui, au contraire, ne seront pas à même de se donner cette loi et donc seront serviles, soumis, dépendants, dépendants de l'opinion commune, c'est-à-dire tomberont dans le grégarisme. Et Nietzsche estime que dans la société moderne règne une morale égalitaire, celle du troupeau, le grégarisme. Tous esclaves, tous victimes, tous égaux, tous coalisés contre la souffrance, parce que la souffrance paraît de trop dans une société de l'abondance. Donc, on va s'opposer à tout ce qui permettrait, à toutes les disciplines qui permettraient de se donner des valeurs. Alors, le danger n'est plus extérieur, les conditions défavorables ne sont plus extérieures, d'une certaine façon. Elles sont internes à l'individu. Et la grande question qui préoccupe en effet notre philosophe, c'est de savoir si l'individu moderne est capable de se discipliner lui-même, de se donner lui-même des buts, de se hiérarchiser. On retrouve ce que nous avons vu dans l'aphorisme 21 concernant la volonté. Est-ce qu'il est capable de s'unifier lui-même autour d'un but? Est-ce qu'il a la force, la puissance, la volonté de puissance de se maîtriser lui-même, de se surmonter, überwinden, lui-même. Et Nietzsche doute que ce soit possible à la masse. Voilà, alors on va prendre la suite. Je voudrais quand même, pour illustrer ceci, prendre un texte assez amusant, en fait, de Zarathoustra. C'est dans le prologue de Zarathoustra. Il y a quatre parties dans Zarathoustra. Il y a une première partie, mais surtout un prologue. Ce prologue, c'est une espèce de fable où Zarathoustra se promène dans une ville. Il y a un bouffon qui traverse la place et la foule, il interpelle la foule. Et voilà ce que la foule, ce qu'il dit à la foule, qui refuse en effet de suivre Zarathoustra, qui leur commande, qui leur demande de savoir se surmonter. Alors la foule, c'est la foule de la vache, de la ville qui s'appelle la vache tachetée. La vache, c'est celle qui broute, pas sans arrêt, et tachetée parce qu'elle est faite de diverses couleurs, elle n'a plus d'unité. Justement, la vache est faite de, c'est le pluralisme, si on veut un peu, elle est bigarrée. Et elle passe son temps à brouter. Bon, c'est un peu l'image de la société moderne, selon Nietzsche, comme vous voyez, pas très flatteuse. Alors, il parle, je vais donc leur parler de ce qu'il y a de plus méprisable, je veux dire le dernier homme. Alors voilà une expression qu'on ne trouve que dans Zarathoustra, par distinction avec le surhomme. Le surhomme, c'est celui qui serait capable, nous y reviendrons sans doute, de se dépasser. Le dernier homme, ben, c'est l'homme moderne, c'est-à-dire celui qui se croit le dernier homme. Pas bien entendu, on est à la flèche de l'évolution. L'homme occidental, savant, éduqué, et qui connaît la liste de ses départements par cœur, qui a le bac plus 3, c'est le dernier homme sur l'échelle de l'humanité. Il est près du point oméga, selon Teilhard, n'est-ce pas bien entendu. Tous les autres sont en dessous. Alors ça, c'est le dernier homme. Mais vous voyez l'ambiguïté, c'est le dernier homme, en fait, le plus vil. Il se croit le dernier, c'est à la pointe même de l'évolution, il est en réalité le dernier. Donc je crois que c'est très intéressant de comparer le surhomme et le dernier homme que nous sommes aux yeux de Nietzsche. Et ainsi Zarathoustra parla au peuple. Il est temps que l'homme se fixe son but. Vous voyez, voilà toujours ce qui. Voilà. Il est temps que l'homme plante le germe de son plus haut espoir. Son sol est assez riche pour cela. Mais un jour viendra où ce sol sera pauvre et stérile, et aucun grand arbre n'y pourra plus pousser. Malheur! Le temps viendra où l'homme ne lancera plus de flèches de son désir par-dessus l'homme et où la corde de son arc, souvenez de la comparaison déjà donnée, ne saura plus vibrer. Je vous le dis, phrase célèbre, il faut encore avoir du chaos en soi pour mettre au monde une étoile dansante. Il faut avoir du chaos en soi, voilà. Le créateur, c'est celui qui a du chaos en soi, mais qui ne se complaît pas dans le chaos. C'est celui qui est capable de créer une étoile dansante. On pourrait dire Proust, il est plein dévoré de, je sais pas quoi, d'angoisse, de jalousie, d'homosexualité. Mais il est capable de créer, avec ça, avec ce chaos, une étoile dansante, qui est la recherche du temps perdu. Et ainsi de suite. Donc il faut avoir du chaos en soi pour mettre au monde une étoile dansante. Je vous le dis, il y a encore du chaos en vous. Malheur, le temps viendra où l'homme n'enfantera plus d'étoiles. Malheur, le temps viendra du plus misérable des hommes, de l'homme qui ne peut plus lui-même se mépriser. Donc il n'est même plus capable de se mépriser. Il voit même plus qu'il est méprisable. Voilà, je vous montre le dernier homme. Alors, ça, c'est le discours du dernier homme. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la création? Désir? Étoile? Demande le dernier homme en cliquant des yeux. Puis la terre est devenue petite et dessus sautille le dernier homme qui rapetisse tout. Sa race est indestructible comme celle du puceron. Le dernier homme est celui qui vit le plus longtemps. Il se multiplie indéfiniment. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes en clignant les yeux. Ils ont quitté les contrées où il était dur de vivre, car on a besoin de chaleur, on aime encore son prochain, et l'on se frotte à lui, car on a besoin de chaleur. Tomber malade et être méfiant passe chez eux pour des péchés, on s'avance prudemment. Bien fou qui trébuche encore sur les pierres ou sur les hommes. Un peu de poison de temps en temps, cela donne des rêves agréables. Un petit peu de drogue de temps en temps. Beaucoup de poison pour finir, cela donne une mort agréable. Là, c'est toujours le dernier homme qui parle. On travaille encore, car le travail est une distraction. Mais on veille à ce que la distraction ne soit pas trop fatigante. On ne deviendra plus ni pauvre ni riche. L'un et l'autre sont trop pénibles. Qui voudrait encore gouverner? Qui obéir? L'un et l'autre sont trop pénibles. Point de pasteur et un seul troupeau. Ça, je trouve assez génial. Personne ne commande la publicité. Qu'est-ce qui commande? Personne. Qu'est-ce qui nous commande d'aller faire du ski à Noël? Personne. Mais nous allons tous y aller. Point de pasteur, un seul troupeau. Tous veulent la même chose, tous sont égaux, qui pensent autrement va de son plein gré à l'asile de fous. Autrefois, tout le monde était fou, disent les plus raffinés en clignant des yeux. On a de l'esprit et l'on sait tout ce qui est arrivé. Aussi peut-on railler sans fin. On se dispute encore, mais on ne tarde pas à se réconcilier, sinon on se gâterait l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour, son petit plaisir pour la nuit, mais on préserve sa santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes en clignant des yeux. Voilà un autre texte plus drôle et non moins méchant. Voilà, alors, si vous aviez des questions sur ce que nous avons eu la dernière fois, seront les bienvenus. Oui.
Je reviens sur Venise et son besoin de guerriers. Et ça me fait penser à l'organisation, si je me trompe, hein, à l'organisation de la cité de Platon, où il y avait des philosophes, les soldats, et puis les artisans. Si je ne me trompe pas, il y a une grande différence entre l'organisation, comment Platon voyait l'organisation de la cité,
oui,
et ce que dit Nietzsche sur justement cette nécessité de serrer les compétences ou les besoins à un moment donné.
Oui. Ben, je crois qu'il y a la même idée, en effet, chez l'un et chez l'autre, à savoir qu'une société ne peut pas vivre sans hiérarchie, c'est-à-dire sans une organisation des fonctions qui fait que les uns, par les nécessités qu'on vient de dire, ont plus d'importance que les autres. Simplement, je crois qu'une des différences, c'est que chez Platon, c'est comme un cadre posé une fois pour toutes, alors que Nietzsche est conscient de la variabilité des conditions dans lesquelles une société se donne la règle. Donc, il y a toujours et partout, me semble-t-il à ses yeux, une hiérarchie, il y a toujours et partout une règle de discipline, enfin, dans les sociétés traditionnelles, mais évidemment, cette règle et cette hiérarchie va varier avec les sociétés. Dans une société, disons, sacrale, ben, ce sont les prêtres ou les sorciers qui seront les plus... Car regardez au Tibet, par exemple, ce genre de société, ce sont les prêtres qui ont le dessus, auxquels les fidèles pourvoient, etc. Et les guerriers sont secondaires. Donc je crois que la différence, me semble-t-il, elle viendrait là. Mais sur le fond, me semble-t-il, il y a la même idée qu'aucune société ne peut se passer d'une différenciation des fonctions, disons. Je ne sais pas si je réponds aux questions. C'est toujours difficile de faire des comparaisons.
Mais... On avait déjà trouvé ça.
Je crois qu'il est, de ce point de vue-là, plus, si j'ose dire, plus moderne, en ce sens qu'il est plus conscient de la diversité même des cultures, des traditions, des groupes, que Platon, qui prend un modèle, évidemment c'est un modèle pour la Grèce, qui d'ailleurs ne colle pas, qui n'a jamais collé, ben, c'est dans les lois qu'on trouve ça, mais ça c'est le modèle idéal, qui serait une catastrophe si on le mettait en place. De la démocratie en Amérique. Oui.
Question quand même, avec le clignement des yeux dans le texte que vous venez de citer, est-ce que ça représente quelque chose
de... Non, j'ai pas compris.
Donc, ainsi, par exemple,
oui,
l'extrait que vous avez cité, le fait que les derniers
clignent
des yeux.
Non, ben, je sais pas, hein. Mais on cligne les yeux en montrant qu'on est malin. Hein. Non, on ne nous la fait pas, hein. Un petit plaisir la nuit, un petit plaisir le jour, hein. Mais y compris, je crois que c'est... Mais j'interprète ça comme ça. Je crois que c'est un petit... Si on devait le monter sur la scène, je crois que ce soit fait avec humour, que la salle rit. Alors évidemment, quand on lit comme ça derrière un bureau, ça paraît solennel. Mais je crois qu'il veut faire rire, donc il faudrait trouver une formule pour qu'il fasse une grimace quelconque pour dire « Regardez comme on est malin !» Alors qu'ils sont stupides. Mais j'en sais rien, hein, sur le fond, il faudrait...
Face au soleil,
ah là, vous mériez le soleil, oui.
J'ai entendu ça.
Le soleil, c'est dans le texte du Gai Savoir, le paragraphe 125. Ou alors, là aussi, c'est, n'est-ce pas, sur la mort de Dieu, où l'insensé ou l'exalté arrive avec sa petite lampe, mais en plein midi. Donc c'est ridicule. Il dit, je viens vous apporter la lumière de la mort de Dieu, mais la lumière éclate partout. Donc là aussi, c'est en principe, c'est drôle, mais c'est l'humour nietzschéen qui part. Bon, et ça vous laisse de glace. Voilà, alors on peut passer au paragraphe 201 et 202. Je ne vais pas lire l'ensemble de ce paragraphe 201 qui est fort long. C'est au fond un peu une reprise de ce que nous avons, ce que nous venons de dire, mais en d'autres termes, qui nous introduisent à ce fameux thème de la distinction entre le moral aristocratique et moral servile. Alors, je lis simplement le début qui reprend des choses. Tant que l'utilité, Nützlichkeit, et non pas, comme dit la traduction, utilitarisme. Alors, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Il est certain que, s'il traduit ainsi, c'est parce qu'en effet, Nietzsche est extrêmement sévère à l'égard de l'utilitarisme. Bentham, Stuart Mill, qu'il cite d'ailleurs comme tel, et on peut voir les raisons, mais nous y reviendrons. Ici, ce n'est pas l'utilitarisme, c'est l'utilité, Nützlichkeit. Tant que l'utilité qui domine, herrscht, dans les jugements moraux, ne visera que ce qui est utile au troupeau, tant qu'elle n'aura en vue que la conservation de la communauté, et que l'on taxera d'immoralité uniquement ce qui paraîtra la mettre en danger, c'est ce que je viens de rappeler, on ne pourra encore parler d'une morale de l'amour du prochain. C'est-à-dire que la morale de l'amour du prochain est une morale qui suppose en effet l'avènement de l'individu qui va pouvoir s'intéresser à l'autre individu. Dans une société, disons traditionnelle, c'est la solidarité, c'est la loi de tous qui prendra le dessus sur cette idée d'amour du prochain. D'ailleurs, ici, quand Nietzsche parle d'amour du prochain, évidemment, il vise la perspective chrétienne, mais je crois qu'il vise tout autant Schopenhauer, c'est-à-dire la pitié. La pitié. Pour lui, la pitié est un sentiment typiquement moderne. Même si autrefois déjà, on ne s'est jamais fait faute de s'exercer à de menues pratiques de ménagement et de compassion. Donc voilà la nuance, il ne faut pas non plus croire que dans ces sociétés, on était dans une rigidité totale, bien sûr qu'il y avait d'équité, de clémence, d'entraide. Même si à ce stade de la société, on trouve déjà tous les instincts que l'on donnera plus tard du nom de vertu, au point de donc il n'y a pas une discontinuité totale. C'est pas déjà l'individu et le souci de l'autre étaient présents, mais en quelque sorte recouverts par le souci de la totalité. Au point de les confondre presque, en fin de compte, avec l'idée même de moralité. Il n'en est pas moins vrai qu'ils n'appartiennent pas encore au domaine des jugements moraux, qu'ils se situent encore en dehors de la morale. C'est de la morale telle que Nietzsche la conçoit. Et puis, je saute un peu, je crois que c'est la deuxième partie de ce passage, dès que le corps social paraît constitué et assuré contre les périls extérieurs, c'est cette peur du prochain qui ouvre de nouvelles perspectives au jugement moral. Certains instincts, puissants et dangereux, tels que le goût du risque, le courage téméraire, la soif de vengeance, la ruse, etc., qui n'étaient pas seulement honorés sous d'autres noms, bien entendu, mais cultivés, fortifiés, parce qu'on en avait besoin, furent ressentis comme doublement forts une fois qu'ils n'eurent plus d'exutoire et peu à peu taxés d'immoralité. Donc voilà le changement de hiérarchie des valeurs. Là, ce qui passait pour le courage, la témérité, la capacité éventuellement de se venger, qui paraissaient positives dans ce type de société, tout d'un coup, elles apparaissent comme des valeurs négatives, qu'il faut plutôt combattre. Moi, j'avais pris le jour, je crois, l'exemple de l'épargne ou de l'avarice. Bon, dans une société de rareté, il est certain qu'on apprend à l'enfant de ne pas jeter son pain, etc., de le manger jusqu'au bout, même s'il a plus faim. Bon, chez nous, on jette ça dans les poubelles. Donc, ce qui paraissait une valeur apparaît aujourd'hui inefficace ou sont honorés désormais et tenus pour moraux. Alors, il faut bien voir que ce n'est pas une décision qui est prise par quelqu'un. Ce n'est pas quand on parle du renversement des valeurs nietzschéennes. Je crois que c'est assez sociologique et historique. C'est que tout d'un coup, les valeurs changent, elles se déplacent. Et personne ne l'a exactement voulu. C'est-à-dire que les conditions géographiques, sociales, économiques ont changé. Et du coup, les valeurs elles-mêmes changent. C'est inévitable. Sont honorés désormais et tenus pour moraux les instincts et les penchants opposés. L'instinct grégaire en tire les conclusions et entame pas à pas sa marche en avant. La morale change désormais d'optique et se demande si une opinion, une passion, une volonté, un don est susceptible de nuire ou de ne pas nuire à l'activité, à l'égalité. Une fois de plus, la crainte est la mère de la morale. Bon, et ce qui va prendre le dessus, c'est évidemment les aspirations médiocres, comme il dit. Les aspirations médiocres sont mises en honneur et saluées comme morales. Finalement, quand règne une paix durable, on a de moins en moins l'occasion et le besoin de se former à la rigueur et à la dureté. Toute rigueur, fût-elle juste, dérange alors les consciences. C'est-à-dire, il faut obéir à la loi, il faut mourir pour la patrie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? C'est pas que, comme telle, en soi, la valeur de la patrie a disparu. C'est qu'elle elle ne mord plus sur les consciences. Je crois que c'est une vue très, très profonde. On va beau faire des discours, dire la patrie magnifique, la France éternelle, relire Peggy en disant que c'était beau d'aller sur le front de l'Argonne et puis de se d'ouvrir. Oui, d'accord, on peut toujours dire ça, on peut continuer. Mais, voilà, ça tombe à côté. Alors, en même temps qu'on a affaire à une pensée conservatrice, on voit bien que Nietzsche ne souhaite pas qu'on revienne, enfin, ne souhaite pas, voit bien qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est fait. Alors, on peut toujours avoir des nostalgies, dire comme c'était beau jadis, Peggy qui allait se faire trouver la peau là-bas, sur le front, c'est magnifique. Aujourd'hui, les gamins, ils cherchent à avoir des portables, c'est dégueulasse. Très bien, mais qu'est-ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? Alors, troisième partie, on en arrive à un degré de déliquescence morbide et de ramollissement, où la société prend elle-même parti, en tout sérieux et honnêteté, pour celui qui lui porte atteinte pour le malfaiteur. Punir lui paraît inique pour une raison ou pour une autre. L'idée d'avoir à châtier lui fait mal, la remplit d'horreur. La morale grégaire, la morale de la peur, touche ainsi à ses ultimes conséquences. Bon, quelques petits commentaires. Alors, première remarque. Bon, je l'ai signalé en passant, dans ce contexte traditionnel, donc, les relations personnelles sont effacées devant les relations collectives, d'où la critique sur l'amour du prochain, qui peut toujours exister, mais qui existe à la marge, qui n'est plus constitutive. Compte avant tout le service de la collectivité. Donc, la peur du prochain en tant que menace potentielle contre le groupe. On va suspecter celui qui n'obéit pas aux valeurs collectives. Bon, celui qui paraît ne pas aller dans le sens de ce que la société exige dans son ensemble. Alors, lorsque la constitution de cette société n'est plus menacée, bon, c'est clairement dans le texte, des perspectives nouvelles s'imposent pour le jugement moral. Le jugement moral, par conséquent, se déplace, on pourrait dire insensiblement. Et non, on en vient à déprécier ce qu'on appréciait. On en vient à déprécier ce qu'on appréciait. Et inversement, à apprécier la mollesse, la facilité qui était jugée comme contraire au bien de la société. Et donc, ce qu'on redoutait, ce qu'on redoute désormais, ce sont les instincts forts, conquérants, qui deviennent suspects. La société prend donc une nouvelle figure, elle a peur de ses instincts qu'elle exaltait jadis, Furcht, la peur, et elle les considère comme destructeurs, alors que dans une société classique, ils étaient la dynamique même de cette société, la nécessité même de cette société. Et c'est elle qui devient centrale en tant qu'elle est une masse. Il n'y a plus de hiérarchie, elle devient une masse. Et donc, cette société n'a plus d'autre objectif que de perdurer. Et ils vont se multiplier, disait le texte de Zarathoustra, comme des pucerons. C'est-à-dire qu'on a affaire à une morale grégaire, curieusement, où c'est le troupeau comme tel qui devient la valeur centrale. Donc, il ne faut pas se distinguer du troupeau. Un seul troupeau, pas de pasteur. C'est le conformisme, le grégarisme qui devient la norme des normes. Et dans cette société, de l'égalité, il faudrait plutôt dire de l'égalitarisme, on se méfie de toutes les différences et on veut les abattre. Il faut que 1 égale 1. Alors, ça n'est pas loin de beaucoup de débats qui nous agitent aujourd'hui. La différence entre les sexes, quelque chose de tout à fait négatif, surtout pas dire qu'il y a quelque part une différence. Bon, il faut que ce soit au même niveau, nivellement. Alors, la logique de ce changement, comme toujours, c'est la peur de la peur. Pas cette idée de condition défavorable, c'est qu'on a peur de ne pas pouvoir survivre. La société moderne reste animée par la peur de la peur. Nous sommes toujours dans les sociétés de la peur. Mais cette peur de la peur, elle est peur de la souffrance, de tout ce qui nous sortirait de nous-mêmes, de tout ce qui obligerait l'individu à se vouer à un but, à une cause. La peur de la peur, c'est précisément la peur de la souffrance. Société de la l'assurance sociale généralisée. On ne veut pas souffrir pour aucune raison. Et dire que la vie est une souffrance, enfin on voit bien ça en théologie, n'est-ce pas le déclin complet et sans doute heureux des théologies du sacrificiel. Il faut se sacrifier pour, on dit, oh là là, qu'est-ce que cette histoire, Jésus est mort pour eux. Bon, ça, on voit bien que chez les théologiens actuels, ça passe plutôt mal, il ne faut pas souffrir. Alors on a une thèse qui est aussi intéressante, puisque dans le Genèse de la morale, Nietzsche s'arrête beaucoup à l'idée de jugement. Vous savez qu'à son époque, on avait beaucoup discuté autour de Lombroso, c'était un criminaliste italien. Je ne me souviens plus exactement de la thèse, mais c'était en gros l'idée que les criminels ne sont pas vraiment des criminels, ce sont plutôt des malades qu'il faut soigner. Donc il ne faut pas les châtier, parce qu'on ne châtie pas quelqu'un qui a un cancer, on ne châtie pas un malade, on le soigne. Alors ça, pour Nietzsche, c'est évidemment l'horreur absolue, parce que, on pourrait dire, sur ce point, il rejoint un peu Hegel, parce que c'est finalement le mépriser. S'il a tué quelqu'un, il doit rendre compte de ce qu'il a fait. Et donc, Nietzsche estime, alors là, il est hyper classique et sans doute réactionnaire, que le châtiment est une façon de rappeler à l'individu qu'il y a des lois, qu'il y a des disciplines, que tout n'est pas possible, et que le respect de ces lois peut entraîner un certain nombre de souffrances que la société vous impose. À partir du moment où on dit, mais non, il n'y a plus de raison de châtier, ben ça veut dire qu'on vous passe tout, quoi. Et même qu'à la limite, enfin il suffirait de lire un peu Foucault, le criminel devient le modèle. Il est le malheureux qui a été obligé de tuer parce que la société ne lui a pas donné la fortune qu'il voulait, n'a pas donné le métier auquel il prétendait. Donc non seulement on va dire c'est un malade, mais à la limite c'est une victime. Voilà, ça c'est aussi tout à fait... c'est une victime. Et la victime, ben, évidemment, non seulement on ne la châtie pas, mais la victime, on a pitié d'elle. Donc sans sens qu'il dit, n'est-ce pas, que châtier devient une chose épouvantable et qu'au contraire... nous avons affaire à une religion de la souffrance. Nous avons affaire à une religion de la souffrance. Or, comme nous avons vu, selon lui, la peur de la peur est la clé de toute vie sociale possible. Voilà, donc, société égalitaire, société de nivellement, société d'abolition des différences, qui fait de cette morale... la morale dominante, une morale du troupeau. La fin de ce paragraphe 201, celui qui scrute la conscience de l'Européen moderne décèlera dans les mille replis et recoins de la moralité le même sempiternel impératif, celui de la crainte grégaire. Nous voulons un jour n'avoir plus rien à craindre. C'est quand même en effet une sorte d'idéologie de la société moderne. Un jour, la volonté et la voie qui mène à ce point s'appelle aujourd'hui dans toute l'Europe le progrès. Le progrès en guillemets, et c'est évidemment très méchant. On ne veut plus avoir à craindre quoi que ce soit. Donc, ne plus de risques non plus. Donc, plus d'entreprises. Il ne faut pas regarder l'avenir, il ne faut pas... etc. Alors, nous on peut passer au paragraphe suivant, le 202... qui au fond reprend, mais sous une autre forme, ce que nous avons vu dans le 201. Répétons sans attendre ce que nous avons dit déjà 100 fois, car de nos jours les oreilles sont mal disposées à entendre de telles vérités, nos vérités. Donc Nietzsche est parfaitement conscient que ce qu'il dit là Ça n'est pas très flatteur et donc on ne va pas volontiers l'entendre, on va se boucher les oreilles. Nous savons combien il est pénible de voir ranger les hommes sans façon et sans périphrase au nombre des animaux. Mais on ne sera pas loin de nous imputer à crime d'appliquer désormais précisément aux tenants des idées modernes les termes de, entre guillemets, troupeau, instinct grégaire et autres du même genre. Donc il est conscient en effet de l'exagération du caractère provocateur de ce discours. Donc il faut aussi le prendre avec distance, avec humour. Mais quoi, nous ne pouvons faire autrement, car c'est là qu'apparaît la nouveauté de nos vies. Nous avons constaté que l'Europe et les pays où l'influence européenne domine s'étaient mis d'accord pour l'essentiel sur les jugements moraux. Visiblement, on sait. Alors je dirais, commence là une première partie, après cette petite introduction. On sait ce qu'est la morale. On sait en Europe ce que Socrate ne croyait pas savoir, ce que le célèbre vieux serpent avait promis d'enseigner jadis. Vous voyez à quoi il est fait allusion. C'est évidemment le serpent de la Genèse. N'est-ce pas? Comme toujours chez Nietzsche, les références bibliques affleurent. Et nos esprits laïcards ne les voient pas. Mais non, le vieux serpent, on va chercher du côté des Grecs. Okay, s'il y a un serpent quelque part dans la mythologie, il y en a beaucoup. Mais le vieux serpent, c'est celui qui dit mais ah bon, le bien et le mal, mais je vais vous indiquer le bien et le mal, vous allez savoir, le bien et le mal, vous interdit, je vais vous le dire. Bon. Donc, conjonction de Socrate et de la Bible. On sait aujourd'hui ce qu'est le bien. On sait, entre guillemets, ça veut dire on croit savoir. C'est pourquoi on ne nous prêtera pas volontiers l'oreille en nous entendant affirmer sans cesse que ce croit savoir en cette matière, ce qui se glorifie soi-même en décernant éloge et blâme, ce qui s'approuve soi-même, c'est l'instinct de l'homme en tant qu'il est un animal de troupeau. Instinct qui s'est fortifié, l'a emporté sur d'autres instincts, étendra toujours plus à régner en eux, à régner sur eux, conformément au processus croissant d'unification et d'assimilation physiologique dont il est le symptôme. La morale est aujourd'hui en Europe la morale du troupeau. Elle est à notre sens une sorte de morale humaine. Il ne dit pas qu'elle n'est pas une morale. C'est bien, bel et bien une morale qui s'impose. Une morale qui a ses impératifs, une morale qui a ses principes. Il ne s'agit pas de diverger des autres. Il faut penser comme tout le monde. C'est bien une morale. Non, il ne dit pas que celui des modernes est sans morale. Elle est une morale à côté de laquelle, avant et après laquelle, il y a place où il devrait y avoir place pour beaucoup d'autres morales, de morales plus hautes. Mais cette morale s'oppose à toutes les forces, de toutes ses forces, à une telle possibilité, à un tel devoir-être. Elle proclame obstinément, inexorablement, « Je suis la morale même, il n'en existe pas d'autre ». Bien plus, la religion aidant, cette religion qui a fait sienne les ultimes aspirations du troupeau et les a flattées, les institutions, les choses en sont venues au point que les institutions politiques et sociales expriment elles-mêmes cette morale d'une manière toujours plus évidente. Le mouvement démocratique est l'héritier du mouvement chrétien. Bon, quelques commentaires. Très rapidement, ce nivellement fait de la morale, ce qu'il appelle la morale européenne, une morale du troupeau, c'est-à-dire une morale de l'indistinction. Cette morale, comme toutes les morales, a la caractéristique d'écarter toute autre morale. Elle se tient pour la morale même. Et on voit bien aujourd'hui le libertarisme, qui est quand même parent de cette morale, n'accepte pas d'autres perspectives que celle-là. La vraie morale, c'est d'aller dans le sens de l'indistinction. Et quiconque essaie de dire ben, « c'est peut-être plus compliqué », etc., est jugé comme hors course. Donc, on croit savoir ce qu'est la morale. Donc, on n'est pas dans le flou, on est dans l'impératif catégorique nouveau du grégarisme. On sait ce qu'est le bien et le mal. Alors, évidemment, on sait ce que Socrate ne croyait pas savoir. Et ce que même, c'est intéressant, la Bible, le livre de la Genèse, ne savait pas. Et en effet, Socrate s'interroge. Qu'est-ce que c'est que la vertu? Qu'est-ce que c'est que le bien? Etc. Bon, c'est un savoir, entre guillemets, évidemment, c'est un faux savoir, c'est une illusion de savoir, car en réalité, l'Européen ne sait rien, ou ne sait plus, car le fondement de ses valeurs est en ruine, c'est le nivellement qui a le dessus, et il ne veut pas le voir, il fait du nivellement la valeur même, et ce qui constitue l'antipode ou la caricature d'un fondement, puisque ça n'hiérarchise plus. Un fondement qui fonde est un fondement qui hiérarchise. S'il ne hiérarchise plus, il n'est plus un fondement. Il est au contraire l'absence de toute espèce de fondement. Alors, ce qu'on peut remarquer encore, c'est que cette morale ne vient pas de philosophes, de penseurs. Elle est professée, comme il le dit, par les institutions mêmes. Donc, on pourrait dire, c'est toutes nos structures sociales qui porte cette morale. C'est pas simplement une idée qui se répandrait dans les esprits, imposée par on ne sait qui. Au fond, c'est à même la société. C'est à même la société. J'entendais l'autre jour un sociologue connu dire un des grands troubles de nos sociétés, c'est que, qui favorise d'ailleurs par certains côtés le sentiment d'inégalité, c'est que, par exemple, au niveau des impôts ou au niveau de la santé, on ne sait plus qui donne quoi. Hein, vous allez chez le pharmacien ou carte vitale, vous ne savez même plus ce que ça coûte. C'est en gros la société qui paye. Les impôts, on dit, je paye, mais ça sert à qui et à quoi? C'est-à-dire, on ne voit plus ce rôle de dette, de relation de dette, qui est normalement constitutive d'une société. C'est-à-dire qu'on tombe dans la confusion. Je tire tant que je peux sur la société qui, en principe, est capable de donner indéfiniment. N'est-ce pas? La carte vitale serait devenue assez intéressante. On l'avait faite pour sensibiliser, disait-on, les patients au coût des choses, mais on ne les voit plus. Donc, on peut demander autant qu'on veut. Bon, ça, c'est une petite parenthèse pour indiquer que, enfin, pour essayer de donner du contenu à cette idée des institutions politiques et sociales de l'égalitarisme. Voilà. Alors, cette morale, donc, est professée, elle tisse la réalité sociale, et ce n'est donc pas seulement un discours moral. Alors, ce qui est mis en cause, évidemment, c'est ce qu'il appelle le mouvement démocratique. Inutile de dire que Nietzsche n'est pas particulièrement démocrate. Qu'est-ce qu'il entend par démocratie? Je crois qu'il ne faut pas trop presser, en effet, sa pensée, parce que ce n'est pas son point fort, ce n'est pas un penseur du politique, c'est un penseur, encore une fois, de la morale. Mais on pourrait dire que, pour lui, la démocratie, c'est le règne du troupeau, dans laquelle il n'y a plus précisément d'affrontement, de rapport de force, mais il y a une sorte d'indifférenciation, un refus de la maîtrise. C'est le règne des esclaves. Alors, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi, enfin, me semble-t-il, la phrase « le mouvement démocratique est l'héritier du mouvement chrétien », puisque nous l'avons vu, et nous allons bientôt y revenir, la victoire du christianisme paulinien, c'est la victoire de la révolte des esclaves contre l'Empire romain et contre son hégémonie. Cette révolte des esclaves, c'est-à-dire... c'est nous les faibles qui sommes les forts, qui sommes les justes, qui sommes les aimés de Dieu. C'est nous les vrais, c'est nous les gens moraux. Eh bien, cette pensée se diffuse au niveau politique et social, et cela donne ce qu'il appelle la démocratie. La démocratie, tout le monde a part égale dans le vote. Il n'y a plus de hiérarchie selon l'âge, la fortune, la condition sociale. Chacun vaut tout autre. Donc c'est en ce sens qu'il est le mouvement démocratique et l'héritier. Alors, il y a un petit passage assez méchant. Ensuite, que ce mouvement soit encore beaucoup trop lent et somnolent. Il faut toujours accélérer, n'est-ce pas, le mouvement. Il faut aller plus loin dans l'égalité. Il faut démocratiser l'école. Plus de maîtres et d'élèves, il faut démocratiser l'entreprise, il faut démocratiser le couple. Bon. Alors que ce mouvement, toutefois, soit encore beaucoup trop long et somnolent pour les individus les plus impatients, ceux qui sont le plus atteints et le plus intoxiqués par cet instinct, C'est ce que montrent les hurlements toujours plus furieux, les grincements de dents farouches des chiens anarchistes qui se sont déchaînés dans les rues de la civilisation européenne. Ennemis en apparence des laborieux et paisibles démocrates, donc tout le monde n'est pas fou furieux, il y a le paisible démocrate, le centriste, qui est gentil tout plein, mais il est tenaillé par les anarchistes fou furieux, n'est-ce pas ? Plus ennemis encore des philosophâtres impénitents et des prophètes enthousiastes de la fraternité, qui se nomment socialistes et revendiquent une société libre, ils ne font qu'un en réalité avec tous ces gens. Alors, suit une longue énumération de points d'identité entre les anarchistes et les socialistes. Alors, qui désigne-t-il ? Moi, sûrement pas ce beau monsieur Cambadélis ou Harlem Désir, mais c'est les socialistes de son temps, c'est-à-dire les socialistes utopistes. Je pense, je ne sais pas exactement, mais c'est quand même, sans doute, Fourier, Proudhon, ces gens-là, pas les pâles socialistes que nous connaissons. Pour qu'il les compare à de dangereux anarchistes, il faut quand même voir les choses autrement. Alors, comme eux, voilà qui est amusant, comme eux, ils sont foncièrement et instinctivement contre toute forme de société que celle du troupeau autonome, allant jusqu'à répudier les notions de maître et de serviteur, ni Dieu ni maître, dit une formule socialiste. Alors, aux yeux de Nietzsche, cette formule ni Dieu ni maître est une formule d'esclave. Parce que seul l'esclave ne peut pas supporter le maître et ne peut pas supporter de Dieu. L'esprit noble s'en fiche, il mène sa vie. Nous verrons le voir à propos de la noblesse. C'est une formule d'esclave qu'on trouve inscrite dans beaucoup d'endroits. Je connais un petit village où il y a plusieurs tombes avec dessus ni Dieu ni maître. Et quand je vais voir cette tombe, je me dis toujours, ben voilà, c'est tout à fait une formule d'esclave. Comme eux, ils opposent une résistance farouche à toute revendication particulière, oui, à toute différence, à toute prérogative et privilège. Ce qui signifie qu'ils s'opposent à toute espèce de droit, car quand tous sont égaux, personne n'a plus besoin de droit. Parce que le droit, aux yeux de Nietzsche, j'ai écrit un petit livre là-dessus, qui s'appelle Nietzsche et la cruauté du droit, le droit organise des rapports sociaux. Il organise le rapport entre le locataire et le propriétaire, qui ne sont pas égaux sous l'angle de la loi, parce qu'il y en a un qui est propriétaire et l'autre qui est locataire. Alors, le droit doit répartir les responsabilités du locataire et du propriétaire, mais ils ne sont pas égaux, absolument. Sinon, il n'y a pas besoin de droit. Si chacun a autant de droits, il n'y a pas besoin de droit. Sinon, pour revendiquer, en effet, l'égalité. Bon, comme eux, ils se méfient toute justice pénale, etc. L'inaptitude à souffrir. Alors, un petit mot là-dessus. Comme vous voyez, Nietzsche est quand même, par certains côtés, un philosophe de la cruauté. Si on lit la généalogie de la morale, c'est quand même le vrai. Il n'y a pas d'existence humaine pour lui qui ne traverse la souffrance. Qui ne traverse, justement, l'arrachement à soi. Et ce qu'il critique, on le voit assez dans ce qu'il appelle le mouvement démocratique moderne, la société moderne, c'est qu'on veut abolir la souffrance. Il y a un texte très intéressant que vous avez peut-être rencontré dans « Par de la bien et mal » qui dit ça. C'est-à-dire, il faut abolir, la repousser le plus possible. Ne pas l'affronter. Bon, ça n'est pas, alors, ça serait la traduction sadienne de Nietzsche. Nietzsche ne dit pas « il faut souffrir » et « plus vous souffrez, mieux ça vaut ». Ça serait la traduction aussi chrétienne perverse de l'idée de sacrifice. Mais l'idée sadienne, sadiste, oh, Dieu sait si aujourd'hui sade est promu comme une valeur suprême, n'est-ce pas ? Je crois que ce n'est pas ça qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que la souffrance est intrinsèque à la vie. Pour écrire « La chasse du temps perdu », Proust doit sacrifier beaucoup de choses. Il doit travailler comme un fou, il doit rester dans sa chambre, il doit se priver de tas de choses. Et il n'y a pas de création sans ça. Le sportif qui se prépare à un tournoi ou à un championnat, eh bien, il doit en baver. C'est pas qu'il prend plaisir à en baver, mais c'est qu'il comprend que si son but c'est de gagner, il faut qu'il assume la souffrance. Et c'est pas en se mettant des contre des analgésiques ou je ne sais quoi, qu'il réussira. Voilà, donc derrière ça, on a, mais je vais y revenir tout à l'heure, une critique de l'utilitarisme. C'est-à-dire que la seule valeur qui va compter dans cette morale du grégaire, c'est la survie du groupe. Et donc, la seule chose qui puisse fixer la conduite de l'individu, est-ce qu'il sert le groupe ? Morale de l'intérêt. Est-ce que lorsque je cherche mon propre intérêt, je peux penser que ça coïncide avec l'intérêt de tous. Donc, il ne s'agit pas de se sacrifier, de sacrifier mon intérêt à l'intérêt de tous. L'utilitarisme dit le plus grand bien pour le plus grand nombre. Donc, le présupposé est que quand chacun cherche son intérêt à lui, en débouchera, s'en déduira l'intérêt pour tous. L'intérêt pour tous. Donc, c'est en cherchant mon intérêt que je cherche l'intérêt de tous, puisqu'on est tous égaux. Donc, ce que je fais pour moi doit nécessairement valoir pour tous. Voilà, c'est ça que Nietzsche repousse, me semble-t-il, dans l'utilitarisme. Et je crois que si on poussait un peu plus loin sa critique, c'est moi qui l'ajoute, mais je pense à un homme comme Sloterdijk ou à d'autres, on pourrait dire que derrière cette morale tout à fait honorable, le plus grand bien, vous noterez, pour le plus grand nombre, on ne dit pas nécessairement pour tous, on va retrouver la souffrance et la mort, parce qu'on va dire, si l'intérêt de tel ou tel individu est trop lourd à porter pour l'ensemble, eh bien, le geste qu'il fait va être immoral, et il faut plus ou moins écarter, voire éliminer cet individu. Alors, je pense à un utilitariste que vous connaissez peut-être, Peter Singer, comme les anciennes machines à coudre, Peter Singer, qui dit tout à fait, qui se veut dans la ligne de l'utilitarisme, si, dans la balance des biens, par exemple, un enfant handicapé est trop lourd à porter parce qu'il va faire pencher la balance du côté des choses lourdes à porter, des dépenses, ben, cette morale ne voit pas d'objection à ce qu'on l'élimine. Parce que son élimination va contribuer au plus grand bonheur du plus grand nombre. Et il dit la même chose pour ces vieillards qui ne servent à rien et qui croupissent dans des mouroirs. Quelle utilité ont-ils ? Ils nous coûtent très cher. Et par conséquent, pourquoi est-ce qu'on les garde ? Au service du plus grand bien de tous, du plus grand bonheur, on serait débarrassé de ces gens qui nous coûtent cher et on vivrait mieux. Alors, on pourrait dire, voilà, une critique d'inspiration nietzschéenne pourrait dire, vous éliminez la souffrance, mais en fait, vous la retrouvez subtilement. N'est-ce pas ? Vous ne l'avez pas chassée, elle vient sourdement et justifiée peut-être de la pire façon. Voilà, on passera tout à l'heure au paragraphe 195 sur le rôle des juifs, qui est quelque chose d'important dans la pensée de Nietzsche. Alors, ça va être quelques minutes. Bon. Alors, comme la morale des esclaves trouve sa racine, selon Nietzsche toujours, chez les juifs, dans le judaïsme, je crois qu'il est important de nous arrêter un peu sur ces propos concernant les juifs. Et en particulier, je vais m'appuyer sur l'aphorisme 195, donc toujours dans Par de la bien et mal. Les Juifs, peuple, entre guillemets, né pour l'esclavage, comme dit Tacite, et avec lui toute l'Antiquité, peuple, entre guillemets, élu parmi les nations, comme ils le disent et le croient eux-mêmes, Les Juifs ont réussi ce prodigieux Umkehrung, renversement, Umkehrung, des valeurs qui, pour quelques millénaires, a donné à la vie terrestre un attrait nouveau et dangereux. Leurs prophètes ont fondu en une seule notion, celle de, entre guillemets, riche, impie, méchant, violent, sensuel, et pour la première fois ont donné un sens infamant au mot « monde ». Ce renversement, Umkehrung, des valeurs, qui veut aussi que pauvre soit synonyme de saint et d'ami, fait toute l'importance du peuple juif. Avec lui commence dans l'ordre moral la révolte des esclaves, der Sklavenaufstand in der Moral. Bon, il vaut la peine de s'arrêter là-dessus, puisqu'on a souvent accusé Nietzsche d'antisémitisme. Alors, je vais faire trois remarques sur ce texte, en allant d'ailleurs un peu au-delà de ce passage qui est tout de même très central. Bon, d'abord, il faut remarquer que Nietzsche attribue au peuple juif une identité contradictoire, et que c'est d'ailleurs ça qui fait la caractéristique et même la force du peuple juif. Il est à la fois né pour l'esclavage, selon la formule donc des païens, de Tacite, né pour l'esclavage, il est donc esclave. Mais à ses yeux, à lui, il est élu. Et donc il est distingué parmi les nations. Alors, on trouve tout de suite cette fameuse distinction entre la servitude et la noblesse. L'élection, c'est de se savoir distinct, séparé, et d'une certaine façon, au-dessus des autres. Donc on pourrait dire que la définition nietzschéenne du juif, elle tient dans cette contradiction. Il est à la fois esclave et noble. Il est à la fois servile et aristocrate. Il est, si l'on regarde de plus près, un esclave qui se dit maître. C'est eux qui se définissent comme élus, donc comme distincts des autres. Et ceci dans une opposition universelle à l'humanité païenne, que lui-même juge païen. Il juge les autres impies. Donc on a affaire à des jugements, à des distinctions qui sont posées par la parole du juif, qui se dit maître et qui dit les autres, tous les autres, l'humanité entière, comme païenne. Donc, il se distingue des autres par le haut, puisqu'il se dit élu de Dieu, et donc il pose une séparation radicale, non raciale, vous le noterez. Ici, il ne parle pas de la race des Juifs. Elle n'est pas raciale, cette séparation, elle n'est pas géographique, elle n'est pas économique, mais elle est de type religieux. Ils sont élus rien moins que par Dieu. Donc, ils ne sont pas élus parce qu'ils seraient plus malins que les autres, parce qu'ils auraient, ils seraient une race supérieure. Nietzsche ne dit pas ça. Ils sont élus par Dieu, disent-ils. Bon, deuxième remarque, l'insistance qu'il accorde aux prophètes. Aux prophètes. Dans d'autres passages, Nietzsche parle plutôt du sacerdoce juif. Des prêtres, qui lui paraissent plus importants, peut-être parce qu'il est dans une tradition chrétienne et qu'il voit en Italie le catholicisme, je ne sais pas. Il est assez rare qu'il parle des prophètes, c'est plutôt le sacerdoce qui, pour lui, encadre dans Généalogie de la morale en particulier, qui encadre un peuple, donc il joue un rôle de maître. Il encadre, il donne des valeurs, il contrôle, etc. Bon, mais ici, il n'est pas question de sacerdoce, il est question des prophètes. Alors, deux remarques sur ce rôle des prophètes. Les prophètes disent, ils ont fondu en une notion, donc les prophètes ont un rôle, par certains côtés, créateur. C'est eux qui ont inventé, et le mot d'invention serait à la fois pour Nietzsche péjoratif et positif, puisqu'il s'agit d'une fiction, mais c'est une fiction créatrice, ils ont inventé l'identification entre richesse, impiété, méchanceté, violence, etc. Donc ils ont posé une adéquation, une identification entre des réalités qui, de fait, sont différentes. On voit déjà l'attitude de l'esclave qui confond tout, n'est-ce pas ? L'identification. Être riche, être impie, être méchant, c'est la même chose. Bon, ben, en fait, c'est pas la même chose, mais c'est eux qui disent que c'est la même chose. Mais ça, c'est déjà, il y a une touche de servilité. Alors, cette identification, elle est le retournement, le premier retournement des valeurs sociales. Autrement dit, les prophètes juifs, et donc les juifs, énoncent une morale qui est opposée aux conditions de survie que nous avons analysées précédemment. Puisque les conditions de survie de tout peuple, c'est précisément de se mettre en lutte et de valoriser la lutte, de valoriser le combat, de valoriser ceux qui sont capables d'affronter les conditions difficiles, comme il dit, les conditions défavorables, pour que la société subsiste. Ici, au contraire, on met en valeur les impies, les pauvres, on met en valeur tout ce qui est contraire aux conditions de survie d'une société. Donc on pourrait dire que c'est une morale contre nature, au sens que nous avons défini tout à l'heure. Elle est contre nature, non pas au sens qu'elle serait exigeante ou qu'elle imposerait le sacrifice, puisque nous savons que la nature impose l'obéissance. Ça va être la morale paulinienne qui impose des sacrifices et qui impose justement l'ascèse. Mais parce que cette morale met en avant toutes les valeurs opposées à ce que requiert la constitution humaine de soi, la constitution d'un peuple, la constitution humaine de soi. Il faut noter que, dans le même temps qu'ils ont posé une morale qui est contraire aux conditions naturelles de la vie commune, donc une morale antinaturelle, vous voyez tout de suite qu'il ne peut aboutir qu'à la catastrophe, sous-entendu, en même temps, ils ont donné de la valeur, ils ont donné un nouvel attrait pour la vie sur Terre. C'est ça qui est très, très intéressant. Il a donné à la vie terrestre un attrait nouveau et dangereux. Il faut toujours faire très attention que quand Nietzsche récuse les arrière-mondes, une des idées des arrière-mondes, c'est aussi de s'attacher à la Terre, mais de telle sorte que cette Terre vous échappe et qu'on rêve d'autre chose. Mais le rêve d'autre chose vous lie à cette Terre. Donc ils ont donné un nouvel attrait, et ceci pour des millénaires. Donc c'est toujours l'idée paradoxale que le refus du monde est une façon de s'y tenir. C'est parce qu'on tient ce monde, qu'on a peur de le voir disparaître, qu'on imagine un autre monde plus vrai. Mais c'est parce qu'on tient à ce monde qu'on a peur de le voir disparaître, n'est-ce pas, qu'on rêve d'un autre monde. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose de tout à fait important. Alors, troisième petite remarque, ce renversement s'opère par substitution d'un point de vue à un autre. Le renversement, c'est de substituer les valeurs qu'il va appeler de servitude aux valeurs de noblesse. Donc, il n'y a pas l'invention d'une nouvelle morale, n'est-ce pas ? Les juifs ou les chrétiens ne vont pas inventer une nouvelle morale, de nouvelles consignes, de nouvelles valeurs. Mais, au point de vue des maîtres, qui fixent les normes requises pour qu'une vie humaine soit possible dans un groupe, les juifs substituent le point de vue de ceux qui ne peuvent se soumettre à ces normes. Donc, au lieu d'affronter les conditions défavorables, ils se croient élus de Dieu et ils substituent les valeurs de pauvreté, de faiblesse, de dépendance, etc. aux valeurs de noblesse. Et donc, comme toujours, nous aurons l'occasion d'y revenir dans le paragraphe 259, l'esclave ne supporte le juge impie que le maître commande. Il ne peut pas supporter le commandement du maître et donc il substitue ses propres valeurs. La maîtrise l'irrite et elle l'irrite, nous le verrons plus tard, parce qu'il ne peut pas lui-même commander. Donc il déprécie ce qu'il ne peut pas atteindre. l'esclave déprécie la maîtrise parce qu'il ne peut pas être maître. Mais aussi, et ça c'est tout à fait capital, l'esclave déprécie la maîtrise parce qu'il voudrait dominer à son tour. Donc d'un côté, il démolit la maîtrise, mais il la démolit parce qu'il voudrait et ne peut pas être maître. Il ne va pouvoir dominer qu'en détruisant les valeurs du noble, qu'en travaillant à lui faire prendre conscience de sa propre culpabilité, de lui faire honte à lui-même. Ça, nous le retrouvons plus longuement dans l'autre passage. Mais l'astuce, et comme il dit dans la généalogie morale, la ruse des esclaves, c'est de détruire du dedans les valeurs du noble, de lui faire reconnaître que ses valeurs ne sont pas aussi nobles qu'il pense. Donc la ruse de l'esclave, c'est de détruire du dedans, que le noble se détruise de lui-même, en rabaissant, en dégradant, en amenant le maître à prendre sur lui le point de vue de l'esclave, à découvrir qu'après tout, lui aussi le noble, il n'est jamais qu'un esclave. Donc qu'il est comme les autres. Alors, on pourrait dire que pour Nietzsche, l'idéologie dominante, pour employer ce mot qui n'est pas nietzschéen, n'est pas celle qui domine, mais celle qui voudrait dominer. Celle qui dénonce chez les autres une volonté de domination. Au fond, seul l'esclave veut la domination. Il la veut, mais il ne peut pas l'obtenir. Il la veut parce qu'il ne l'exerce pas. Il s'agit là des Juifs de l'Ancien Testament, dont saint Paul va être, et est, aux yeux de Nietzsche, le parfait héritier. Mais je crois qu'il faut compléter ce tableau du Juif dans ce petit paragraphe, évidemment très court, il y a beaucoup d'autres choses dans le plus terrible dans l'Antichrist. Il faut le compléter, je dirais, par le paragraphe 250 et 200 et 251. Ce que l'Europe doit aux Juifs, beaucoup de choses, bonnes et mauvaises, et surtout ceci qui appartient au meilleur et au pire, le grand style dans la morale, l'horreur et la majesté des exigences infinies, des significations infinies, tout le romantisme sublime des problèmes moraux, et par conséquent ce qu'il y a de plus séduisant, de plus captieux et de plus exquis, voyez le jeu des mots, hein, on glisse, dans ces jeux de lumière et ces invitations à la vie, au reflet desquels le ciel de nos civilisations européennes, son ciel vespéral, rougeoie aujourd'hui peut-être de son ultime éclat. Nous, qui assistons en artistes et en philosophes à ce spectacle, nous en sommes reconnaissants, denkbar, aux Juifs. Donc c'est les Juifs qui nous ont donné les valeurs qui nous constituent, qui sont notre ciel. Ciel déclinant, crépuscule des idoles, mort de Dieu, tout ce que vous voudrez, mais nous sommes reconnaissants. Et le paragraphe suivant, assez long, je ne vais pas le lire en entier. Lorsqu'un peuple souffre, veut souffrir de fièvre nationaliste et d'ambition politique, il faut prendre en patience les diverses nuées qui troublent son esprit, ces petites crises d'abêtissement. Donc, vous voyez, le nationalisme est mis du côté de l'abêtissement. Ainsi, chez les Allemands d'aujourd'hui, tantôt la bêtise anti-française, tantôt la bêtise antisémite, ou anti-polonaise, ou romantico-chrétienne, ou wagnérienne, ou quel que soit le nom de toutes ces sottises, de ces petites obnubilations de l'esprit et de la conscience des Allemands. Bon, par ce petit passage, vous voyez tout de suite combien Nietzsche est peu nationaliste. Eh bien, c'est un esprit européen, il a toujours revendiqué. Alors, je saute quelques passages. Que l'Allemagne possède bien assez de juifs. Que l'estomac allemand, le sang allemand de la peine, ou encore longtemps de la peine, a assimilé cette dose déjà existante de juifs, voilà le langage que tient un instinct largement répandu et auquel il faut prêter l'oreille, d'après lequel il faut agir. Pas un juif de plus, porte close pour les juifs, avant tout à l'Est. Tel est le vœu instinctif d'une nation dont le type ethnique est encore faible et indécis, et qui craint qu'une race plus forte ne vienne l'effacer et l'éteindre. Je crois qu'il est assez clair que Nietzsche ne prend pas cette formule à son compte. C'est la bêtise nationaliste qui dit « assez de juifs ». Or, les juifs, je continue à lire. Mais si vous hachez cette phrase, vous faites dire à Nietzsche l'inverse de ce qu'il pense. Je continue à lire. « Or, les juifs constituent sans aucun doute la race la plus forte, la plus résistante et la plus pure qui existe actuellement en Europe. Ils savent s'imposer, même dans les conditions les plus dures, on retrouve toujours cette formule, mieux même que dans des conditions favorables, grâce à de mystérieuses vertus qu'on voudrait maintenant qualifier de vices, grâce surtout à une foi décidée qui n'a pas à éprouver de honte en présence des idées modernes. Ils changent, s'ils changent, comme l'Empire russe fait ses conquêtes, comme un empire qui n'est pas né d'hier et qui a du temps devant soi, c'est-à-dire aussi lentement que possible. » Alors, la fin de ce texte, il faudrait... il parle de l'assimilation des Juifs qui pourrait arriver à se fondre et à dominer dans l'Europe. On ferait bien de prendre conscience et de tenir compte d'une telle aspiration où s'exprime peut-être déjà une certaine atténuation des instincts judaïques. Donc c'est le grand thème, évidemment, de l'assimilation qui, au XIXe siècle, va marquer beaucoup de Juifs et qui va aboutir à un certain nombre de drames. L'idée qu'au fond, il faut s'inculturer totalement et renoncer au judaïsme. C'est pourquoi il serait peut-être utile et juste d'expulser du pays les braillards antisémites. C'est pas très antisémite, cette formule, quand même, non? Il faudrait expulser les braillards antisémites. Il faudrait accueillir les juifs avec prudence, en opérant une sélection, un peu commode, un peu comme la noblesse anglaise. Il est certain que dans l'Allemagne nouvelle, ce sont les types ethniques vigoureux et déjà fortement accusés qui peuvent s'allier le plus fructueusement avec les juifs. Par exemple, les officiers de la marge d'origine aristocratique. Donc je crois que ça donne un cadre intéressant selon lequel, en effet, Nietzsche n'a pas été antisémite. Même si, évidemment, il identifie les juifs à l'Aufstand, à la révolte des esclaves en Occident. Donc on retrouve toujours cette ambiguïté, mais on ne peut pas le classer purement et simplement comme antisémite, loin de là. Et comme vous savez d'ailleurs, sa sœur Elisabeth a voulu se marier, quand elle était en Argentine, avec un antisémite notoire, et Nietzsche lui envoie des lettres absolument furieuses en lui disant qu'elle fait une sottise absolument totale. Alors, à l'appui de cet antisémitisme de Nietzsche, je voudrais citer un auteur israélien qui s'appelle Yovel, Yovel, et son prénom c'est Irmiyahu Yovel, qui a écrit un livre au seuil en 2001 qui s'intitule « Les Juifs selon Hegel et Nietzsche, la clé d'une énigme ». Donc il s'agit d'un Israélien, que je suppose juif. La thèse de ce livre, qui est tout à fait intéressant, tient au fond dans la formule « Si entre Hegel et Nietzsche il y a un antisémite, ce n'est pas Nietzsche, c'est Hegel. Pourquoi est-ce Hegel et non pas Nietzsche ?» Alors c'est ici qu'on pourrait évidemment s'étonner. C'est parce que Hegel est resté chrétien, et donc sous-entendu, ne pouvait être qu'antisémite, alors que Nietzsche, s'étant déclaré antichrétien, ne pouvait pas être antisémite. Bon, je résume évidemment grossièrement, mais c'est quand même la thèse de Jovel, qui est tout de même intéressante. Alors, est-ce que Hegel est antisémite? Ça, je n'en sais rien. Est-ce qu'il est antisémite parce qu'il est chrétien? Je le sais encore moins. Mais enfin, je recueille ce remarquable témoignage d'un Israélien selon lequel, alors il cite beaucoup de textes, évidemment Nietzsche n'est pas antisémite, et je crois qu'il a raison. Ce n'est pas parce qu'il fait des juifs la source de la révolte des esclaves en morale qu'il est antisémite. Alors, ce qui est intéressant aussi pour nous, et je vais en terminer par là, c'est que, au fond, cette idée de la révolte des esclaves, je l'avais déjà dit, elle va trouver son relais avec le christianisme paulinien. Car au fond, à travers Paul, selon Nietzsche, c'est évidemment qu'on peut discuter, c'est le judaïsme, tel que le paragraphe que j'ai lu vient de le définir, qui triomphe, ou l'Ancien Testament, contre le message de Jésus. Alors, il faudrait ajouter encore que, ce qui n'est pas dit dans le texte que nous avons ici, c'est que la tradition juive a insisté sur le péché. Parce qu'effectivement, et Nietzsche pourrait le dire à partir des prophètes, si l'on est l'élu de Dieu, on est toujours en dette par rapport à Dieu. On est toujours coupable par rapport à Dieu. On est toujours en position d'avoir péché par rapport à lui. On n'a pas connu la pureté, on n'a pas obéi à sa loi jusqu'au bout, etc. Donc, est attaché aux yeux de Nietzsche, on trouvait ça notamment dans l'Antichrist, mais pas seulement, dans Aurore aussi, l'idée que le monde juif, le juif a développé l'idée de péché. C'est de culpabilité envers Dieu et de culpabilité envers soi-même. Notion qui, pour Nietzsche, n'est pas grecque. Et je crois qu'il a raison. Le grec n'a pas de culpabilité, au moins en principe. Et même Aristote repousse l'idée de honte. Il n'y a pas à avoir honte de ce qu'on est. Bon, alors aux yeux de Nietzsche, au contraire, cette idée de péché va transiter à travers Paul, dans le christianisme des églises. Si bien qu'on a une conjonction, et c'est un ajout par rapport à ce que je disais précédemment sur le christianisme paulinien, on a une conjonction entre révolte des esclaves, c'est vous, les élus, saint Paul va élargir l'idée, n'est-ce pas? Ce sont tous les pauvres, tous les malvenus, tous les laissés pour compte, c'est des formules lynchiennes, hein, ce sont eux qui sont les élus de Dieu. Donc saint Paul ne fait que universaliser en un sens le message judaïque, ce sont tous les malvenus qui se trouvent les élus de Dieu. Mais ils ne sont pas élus purement et simplement, il faut qu'ils se convertissent et qu'ils passent par la mort de la croix, donc qu'ils reconnaissent leur péché. Voilà, bien, le christianisme de saint Paul, qui est le christianisme dominant, est évidemment un héritier de ce judaïsme. On pourrait dire que c'est le judaïsme continué par d'autres moyens, pour parodier Clausewitz. Ce qui est contraire, nous l'avons vu précédemment, au message de Jésus qui n'est que oui. Bon, le oui de Paul, ou le oui des Juifs, est un oui conditionnel. On pourrait dire les prophètes. Oui, vous êtes les élus de Dieu, à condition d'obéir à la loi de Dieu. Bon, saint Paul dira la même chose, simplement il dira à condition de porter la croix, c'est-à-dire à condition de mourir. Vous avez accès à la vie éternelle à condition de passer par la mort. Donc c'est un salut conditionnel. Voilà, donc je crois qu'il était important de mettre cette pierre, parce qu'il y a beaucoup de conditions qui sont faites à propos de Nietzsche, quand on dit évidemment révolte des esclaves, Nietzsche les condamne, etc. Comme toujours chez Nietzsche, rien n'est simple, en même temps qu'il les exalte, il en fait évidemment la critique. Voilà, alors on peut aborder, au moins aborder, le paragraphe 259 que je vous avais invité à regarder, c'est-à-dire donc nous passons à la neuvième partie de ce « Par-delà bien et mal » qui est intitulé, dans la traduction que j'ai sous les yeux, et peut-être est-ce votre cas, qui est aristocratique. En réalité, le mot allemand, c'est le mot vornehm ou vornehmheit. Bon, vornehm, c'est ce qui se trouve devant, c'est Donc le mot aristocratique, je crois, est tout à fait... Alors, de temps en temps, Nietzsche l'emploie. Hein. Mais il l'emploie, comme souvent, dans une pluralité de mots. Fornem, je crois que le plus simple, c'est de traduire par distinguer. La distinction. Donc, fornem, distinction, noblesse, aristocratie, distance, qui s'oppose précisément à servilité, identification, plèbe, esclave, enfin, servilité, tout ce que vous voudrez. Mais évidemment, le mot aristocratique, surtout pour des Français, ça fait tout de suite penser à Versailles. On voit les dames en crinoline, les bals, les ballets, etc. Ce qui, je crois, n'a rien à voir avec ce que Nietzsche dit, puisque même dans un texte que nous verrons, il explique qu'au fond, l'esprit aristocratique, l'esprit de noblesse, se trouve plutôt chez les paysans qu'ailleurs. Et c'est pas totalement faux. Il y a une noblesse du paysan qui ne se trouve peut-être pas toujours dans l'aristocratie proprement dite. Bon, alors, ce paragraphe 259, il va rappeler le ur factum, c'est-à-dire le fait fondamental de toute histoire humaine, ce sans quoi, ur, ce qui est au principe, au fondement, ce sans quoi il n'y aurait pas d'histoire proprement humaine. Et ce ur factum, c'est précisément la lutte, le combat, l'opposition, la contradiction, il va appeler ça aussi quelquefois l'exploitation, donc le danger. Et le paragraphe 260, que nous lirons la prochaine fois, va montrer comment ce ur factum, ou ce qu'il appelle aussi ce Grundprinzip, principe fondamental, est vécu ou est approprié de façon antinomique, soit dans une perspective fornem, noble, soit dans une perspective servile. Alors, la grande idée, je crois, c'est que l'animal humain qu'est l'homme veut vivre, ne peut pas ne pas vouloir vivre. Peut-être héritage de Schopenhauer, mais peut-être expérience fondamentale d'un homme qui était malade et qui a dû lutter pour survivre. L'homme ne peut pas ne pas vivre, mais il peut vivre de manière vile ou il peut vivre de manière noble. Et encore faut-il dresser tout un éventail de possibilités entre ces deux extrêmes. En tout cas, il y a au moins, disons un extrême, une façon noble d'affirmer la vie dans la ligne de la souveraineté, souveraineté à l'égard de soi-même et de la création, et il y a une autre attitude servile dans la ligne de la dénégation ou du ressentiment. Voilà, en gros, les deux paragraphes. Alors, je lis rapidement le 259, et puis je ferai un petit commentaire. S'abstenir mutuellement de s'offenser, de se violenter, de s'exploiter. Alors, en allemand, ce sont des noms, die Verletzung, der Gewalt, bon, enfin, peu importe. S'abstenir de l'offense, de la violence, de l'exploitation, reconnaître à la volonté d'autrui autant de droits qu'à la sienne, voilà les principes qui, en un sens grossier, peuvent engendrer de bonnes mœurs entre les individus, une fois certaines conditions remplies, à savoir la similitude des énergies et des critères chez les individus et l'appartenance de ceux-ci à un même corps social. Mais si on songeait à étendre ce principe, voire à en faire le principe fondamental, Grundprinzip der Gesellschaft, si on s'avisait de faire de ce principe qui vaut entre individus le principe fondamental de la société, celle-ci se révélerait bien vite pour ce qu'il est, ce principe, la négation de la vie, un principe de dissolution et de déchéance. Je dirais, ça c'est la... l'affirmation centrale qui constitue une première partie. Sur ce point, donc on développe, il y a la deuxième partie de ce paragraphe, sur ce point, il faut penser en allant jusqu'au fond des choses et se défendre de toute faiblesse sentimentale. Il faut faut pas que le sentiment nous domine, il faut accrocher nos ceintures. Parce qu'il va y avoir des troubles, il va y avoir, je ne sais plus comment on dit dans les avions, des turbulences. Vivre, c'est essentiellement dépouiller, mais en nouveau, ce n'est pas des verbes, enfin bon, peu importe. Leben selbst ist wesentlich eine Neigung, Verletzung, donc il faudrait traduire par des mots, dépouillement, blessure, domination de ce qui est étranger et plus faible, oppression, imposition de sa propre forme, englobement ou au moins, au mieux, exploitation. Mais pourquoi employer toujours ces mots qui exprimèrent de tout temps une intention de calomnier ? Tout corps au sein duquel, comme nous l'avons admis, les individus se traitent en égaux, et il en va ainsi dans toute aristocratie saine, là c'est le mot aristocratie, est aussi obligé, s'il est vivant et non pas moribond, de faire contre les autres corps tout ce dont les individus qui le composent s'abstiennent dans leurs relations réciproques. Il devra être, voilà une rare occurrence, une volonté de puissance, Wille zur Macht. Il devra être une volonté de puissance incarnée. Il voudra croître, s'étendre, accaparer, dominer, et non pas par moralité ou immoralité, mais parce qu'il vit, et que la vie est, souligné, Wille zur Macht. Je dirais qu'on débouche là sur un troisième volet de cet aphorisme. Il n'est pas de domaine où la conscience de l'Européen ordinaire répugne davantage à se laisser instruire. Donc on va repousser, nous repoussons ce qu'on vient de dire, on n'accepte pas. De nos jours, on s'exalte partout, fût-ce en invoquant la science, sur l'état futur de la société, où l'exploitation n'existera plus. Nous trouvons nos socialistes dont on parlait tout à l'heure, on va supprimer l'exploitation. De tels mots sonnent à mes oreilles comme si on promettait d'inventer une forme de vie qui s'abstiendrait volontairement de toute fonction organique. L'exploitation, Ausbeutung, Ausbeutung, n'est pas le propre d'une société vicieuse ou d'une société imparfaite et primitive, et là je corrige un peu ma traduction, elle appartient à l'essence du vivant en tant que fonction organique fondamentale. Elle appartient à l'essence du vivant. Sie gehört ins Wesen des Lebendigen als organische Grundfunktion. Sie ist eine Folge des eigentlichen Willens zur Macht. Elle est très exactement une conséquence de la volonté de puissance qui est la volonté de vie. À supposer que cette théorie soit nouvelle, cette réalité est le fait originaire, non pas premier, c'est ur factum, de toute histoire, aller Geschichte. Ayons donc l'honnêteté de le reconnaître. Bon, voilà un texte assez brutal. Alors, je reviens sur ces trois parties. D'abord, dans ce que j'ai appelé la première partie, enfin disons le premier développement, on pose une sorte de principe qui est double. On affirme que ce qui vaut éventuellement pour l'individu ne vaut pas nécessairement pour la société et pour un groupe. Ce qui peut valoir pour l'individu et les relations individuelles ne vaut pas, et même ne peut pas être étendu, ne doit pas être étendu au principe fondamental de la société. Ce qui vaut pour l'individu, c'est le refus de la violence, le refus de l'exploitation, et reconnaître à la volonté d'autrui autant de droits qu'à la sienne, c'est donc admettre l'identité de la volonté d'autrui avec la sienne. Nietzsche affirme donc qu'au niveau de la morale interpersonnelle, ces références, disons ces valeurs, sont évidemment nécessaires, courantes. Ne pas exploiter d'autrui, le respecter, supposer qu'il est semblable à moi, donc le respecter comme moi-même, cela va de soi. Et donc, au niveau des relations interpersonnelles, on pourrait dire que cette morale, entre guillemets, est acceptable. Mais, si l'on transpose cela au niveau d'une société, alors on aboutit à la destruction même de cette société. Il faut donc distinguer ce qui vaut pour l'individu et la réalité de la société. La non-violence, la non-exploitation, ne peuvent se déployer ou être vécues que parce que fondamentalement, une violence ou une injustice est aussi voulue, au niveau global. Il y a comme condition nécessaire, nous dit-il dans ce texte, à toute société humaine, à affronter une violence fondamentale qui est la condition de possibilité de la morale interpersonnelle. La morale interpersonnelle vaut si joue au niveau de la société des impératifs qui sont contradictoires par rapport à elle. Autrement dit, la réalité d'une société qui affronte la violence, qui accepte l'exploitation, est la condition de possibilité pour l'individu. Mais sans cette morale de la société, morale d'exploitation, l'individu ne pourrait pas s'affirmer. Alors ça, je crois que c'est aussi ce qui vient contrebalancer, si l'on peut dire, ce qu'on appelle souvent l'individualisme de Nietzsche. C'est-à-dire que l'individu que nous sommes, et nous avons vu qui règne dans une société moderne, n'est possible que parce que quelque part dans la société, il y a un affrontement et une exploitation avec quelque chose d'autre. Il y a toujours au fond d'une société une odeur de mort. Il y a toujours quelque part une violence. Ce que je disais tout à l'heure à propos de Peter Singer et l'utilitarisme. C'est très beau de dire, voilà, ça paraît aller de soi, le plus grand bien pour le plus grand nombre. Oui, c'est parfait. Si vous regardez de plus près, derrière ça, il y a le sacrifice d'un certain nombre d'individus qui, eux, sont incapables de contribuer au bonheur de la société. Donc, puisqu'ils sont incapables d'apporter une contribution positive au bonheur de la société, à quoi bon les maintenir? Alors, ça peut paraître une thèse étrange, hein, dire que, c'est en effet une thèse étrange, qu'entre les rapports individuels, qui sont des rapports, comme on voit ici, de non-violence et de respect, et ce grand principe de la société, il y a des bémols, n'est pas si étrange que ça. Je donne deux références pour essayer d'illustrer et essayer de comprendre. J'essaie de comprendre moi-même. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, quand il réfléchit à l'origine de l'histoire humaine, il voit à l'origine de la société humaine, de l'histoire humaine, deux meurtres, Romulus et Rémus, Caïn et Abel. Et il en conclut que, à la racine de toute société, il y a eu un meurtre. Bon, c'est-à-dire que toute société, si vous cherchez quelque part, elle vit sur un meurtre. Texte est une position étonnante, mais je vais l'actualiser. Vous connaissez sans doute aussi la pensée de René Girard. Eh bien, René Girard, avec des formules évidemment autres, ne dit pas autre chose. Lui qui se veut si foncièrement anti-Nietzschéen, en fait, il est beaucoup plus Nietzschéen qu'il ne croit. L'idée de Girard, c'est que toute société trouve la paix en sacrifiant quelqu'un. Il y a un bouc émissaire quelque part. On ne peut trouver la paix que parce qu'on a quelque part tué quelqu'un. En gros, si je comprends bien la thèse de Girard, c'est quand même ça. Alors, nos sociétés paisibles, on pourrait traduire par l'actualité, nos sociétés paisibles, pacifiques, on ne va pas se violenter, on s'aime bien, etc., elles ne sont possibles que parce que quelque part il y a des meurtres, ou on a tué quelqu'un. Nous vivons tous sur des cadavres. Bon, je ne sais pas comment tenir cette thèse, mais il y a toujours quelque part des victimes, quoi. Et nous ne jouissons de la paix, de la tranquillité, de la justice, de la non-violence que parce qu'il y a quelque part des victimes. Bon, j'essaie de comprendre ce que Nietzsche veut dire, mais je crois que c'est un peu ça. C'est-à-dire que, au niveau interpersonnel, tout à fait, courtoisement, nous nous rapportons les uns aux autres, mais fondamentalement, il y a des conditions sociales sans lesquelles nous ne survivrions pas. Alors, on pourrait aussi évoquer, si vous voulez, mais un autre auteur, qui est Machiavel. Parce que finalement, Machiavel, que l'on juge souvent très sévèrement, et pas toujours à tort, mais je crois souvent à tort, ne dit finalement pas autre chose. Le bon prince, pour illustrer à nouveau, toujours pour essayer de rentrer dans ces perspectives difficiles, le bon prince, il faut que de temps en temps, pour rétablir l'ordre, parce qu'il y a des troubles, parce que il y a des émeutes, il fasse tomber quelques têtes. Mais, donc, il faut qu'il y ait quelque part, au moins la menace de faire tomber quelques têtes. Si vous ne tenez pas tranquille, faites tomber quelques têtes. Si vous tenez tranquille. Mais il ne faut pas que le bon prince passe son temps à faire tomber des têtes. François de Borgia. C'est François dans... Non, c'est... César Borgia, oui. Machiavel, il est bien connu en chante sa louange. Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a fait tomber des têtes. Mais après, nous dit Machiavel, il a très mal gouverné et c'est lui-même qui s'est fait renverser parce qu'il a continué à faire tomber des têtes. Or, une fois qu'on a fait tomber des têtes, c'est-à-dire que le calme est rétabli, les gens veulent vivre en paix. Et donc, morale, c'est un non-violent, attend qu'il... les gens veulent cultiver leurs champs, ouvrir leur commerce, etc. Ça, c'est du Machiavel tout pur. Et vous voyez, c'est pas très loin de Nietzsche, c'est-à-dire que la violence est toujours latente. Il faut que de temps en temps le prince l'exerce, mais pas toujours. Parce que les gens veulent du calme, la tranquillité, etc. Il ne faut pas un tyran. Le prince machiavélien n'est pas un tyran. Mais il a l'épée de justice, comme dirait le bon Luther. Il a l'épée de justice, de temps en temps, paf. Voilà, je crois que c'est ça que, me semble-t-il, veut dire Nietzsche, si vous voulez. Alors, de fait, la vérité est dure. C'est pour ça que j'avais déjà dit à propos de la vérité, n'est-ce pas, d'illusion, la vérité aux yeux de Nietzsche, c'est ça. Et c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, n'est-ce pas, la vérité, l'être, le bien, tout ça. Regardez le paragraphe 257. Jusqu'ici, toute élévation du type homme a été l'œuvre d'une société aristocratique et il en sera toujours ainsi. Autrement dit, elle a été à l'œuvre d'une société hiérarchique qui croit à une longue échelle hiérarchique et à la différence de valeur de l'homme à l'homme. Différence de valeur de l'homme à l'homme, encore une fois, le guerrier a une autre valeur que le commerçant dans une société de guerre. Mais aujourd'hui chez nous, le banquier qui gagne beaucoup d'argent, il est évidemment plus valorisé que le chômeur ou le SDF. Ça, on a de la peine à le reconnaître, mais oui. Bon. Sans le désir de distance, pathos der Distanz, formule une chaîne très intéressante. Sans le pathos, alors c'est intraduisible, pathos, parce que le pathos chez nous c'est le, c'est du discours verbeux. Le pathos, c'est la passion de la distance, le sens de la distance. Voilà qui caractérise la morale, le sens, la volonté de la distance. Sans le pathos de la distance que développe une différence irréductible entre les classes, le regard toujours supérieur que la classe dirigeante jette sur ses sujets et ses instruments, on ne voit pas comment naîtrait cette autre et plus mystérieuse passion qui aspire sans cesse à l'élargissement de l'âme. Certes, alors j'en viens au milieu du paragraphe, il convient de ne pas se faire des illusions humanitaires sur la jeunesse d'une société aristocratique. Donc, sur les conditions nécessaires à l'élévation de type humain. La vérité est dure. Voilà, la vérité est dure. Die Wahrheit ist hart. Il nous faut regarder froidement comment n'importe quelle civilisation plus haute a commencé sur cette terre. Augustin, René Girard, Machiavel. Des hommes encore tout proches de la nature, des barbares dans tout ce que ce mot comporte d'effroyable, des hommes de proie encore en possession d'une volonté intacte et d'appétit de puissance inentamée, se sont jetés sur des races plus faibles. Bon, ça c'est la mythologie nietzschéenne, mais enfin, si on regarde l'Europe, c'est pas totalement faux. Plus polissés, plus paisibles, des races soit commerçantes, soit pastorales, sur de vieilles civilisations usées, qui dilapidaient leurs dernières énergies en d'étincelants et mortels feux d'artifice. La caste aristocratique fut toujours d'abord la caste des barbares. Ah, n'est-ce pas? La caste des barbares. Sa supériorité ne résidait pas avant tout dans sa force physique, mais dans sa force spirituelle. Ils étaient, ces aristocrates, des hommes. Ils étaient des hommes plus complets, c'est-à-dire aussi et à tous les niveaux, des bêtes plus complètes. Donc, à nouveau, cette race aristocratique, elle était à la fois des hommes plus complets et des barbares plus complets. Donc, vous voyez, il y en a pour tout le monde, c'est-à-dire l'esclave est créateur de nouvelles valeurs. Ça, c'est quelque chose de magnifique, ça nous a marqué, et durablement, mais en même temps, il a détruit les conditions de survie. Mais le noble, de son côté, il n'est pas peint d'une couleur rose, il est aussi un barbare. La vérité est rude. Voilà. Die Wahrheit ist hart. Voilà. Écoutez, on va peut-être s'arrêter là, et puis on prendra la suite la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous finirons un peu plus tôt, parce que je dois prendre un train assez vite. Donc, nous arrêterons vers entre 6h30 et 7h, les cas. Je vous préviens à l'avance pour que vous ne soyez pas trop surpris. Voilà. La